foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en Formule Magazine. Au menu cette semaine, Olivier Lefebure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film, nous parlera notamment du long-métrage québécois Antigone, film de Sophie Deraspe qui représentera cette année le Canada dans la course aux Oscars. De son côté, Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de l'agence de presse Présence, nous proposera un retour sur les grands thèmes de l'actualité religieuse des dernières semaines. Nous sommes également allés rencontrer l'éditeur Jonathan Guilbeault dans les bureaux de Bayard Canada afin qu'il nous partage ses réflexions autour de l'album Jesus is King du mythique et controversé rappeur américain Kanye West. Mais tout d'abord, nous vous proposons une rencontre avec la théologienne Sophie Tremblay. Elle vient nous parler de son plus récent ouvrage intitulé « Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui », livre paru chez Mediapol. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Qu'est-ce que croire au 21e siècle? Comment se pose aujourd'hui la question de la transmission de la foi? Quel sens donner aux rituels religieux dans une société hypermoderne qui semble avoir perdu le sens du sacré? Comment et pourquoi devenir chrétien, chrétienne aujourd'hui? Comment, comme croyant, comme croyante, naviguer entre tradition et modernité? Ces questions et bien d'autres sont au cœur du plus récent ouvrage de la théologienne Sophie Tremblay, ouvrage intitulé « Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui », un livre paru aux éditions Mediapol et qui sera lancé le jeudi 14 novembre dès 19h à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. D'ailleurs, Sophie Tremblay a préparé une conférence inédite pour l'occasion. Professeure à l'Institut pastoral des Dominicains depuis plus de 20 ans, Sophie Tremblay se spécialise dans le dialogue pastoral, la catéchèse, la liturgie et les sacrements. Très présente sur le terrain, Sophie Tremblay a pu élaborer ce nouveau livre à partir de réalités observées, de situations vécues, donnant naissance à des personnages qui, au fil des pages, nous permettent de vivre avec eux un questionnement profond et très actuel. J'ai le bonheur d'avoir Sophie Tremblay à mes côtés. Sophie Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Alors Sophie, je le rappelle, votre ouvrage a pour titre « Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui ». À qui s'adresse ce livre? Qu'avez-vous ou quel public aviez-vous en tête au moment d'écrire ces lignes?
En fait, un public différent de celui de mes précédents livres. Je suis théologienne de métier, professeure. Mes précédents livres s'adressaient plutôt aux gens qui réfléchissent soit comme théologien ou comme responsable à des questions pastorales. Alors que là, je me suis sentie interpellée à m'adresser en même temps à ces gens-là et à tous les autres que je côtoie dans toutes sortes d'autres situations et qui démontrent un intérêt pour la question de l'héritage religieux catholique au Québec. Alors, j'ai voulu écrire un livre qui est accessible à tous. Je m'imaginais, pendant que j'étais en train de l'écrire, ayant devant moi des personnes du milieu pastoral et aussi toutes sortes d'autres personnes à qui je pensais, des amis, des membres de ma famille, des gens qui fréquentent l'Église ou qui y vont jamais, qui ont toutes sortes d'attitudes ou de posture par rapport à l'Église catholique. Et puis, je m'imaginais en train de leur parler tous en même temps à ces personnes-là.
Oui. Et vous le faites à partir de personnages. C'est un choix pédagogique assez intéressant, le fait d'arriver avec des personnages, un récit, du storytelling là-dedans.
Bien, exactement. Puis, j'aurais pu faire un détour plutôt par la sociologie, adopter une méthodologie plus scientifique pour essayer de rendre compte de réalités que j'observe. Mais c'est pas comme ça que ça s'est présenté. En fait, j'ai réalisé qu'en racontant une histoire, ça me permettait de regarder le réel avec toute sa complexité, avec toutes ses couches, toutes ses dimensions. Puis ça me permettait aussi d'intégrer ou de faire synthèse par rapport à des réalités que j'ai vécues. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est profondément incarné, beaucoup plus que quand on lit des résultats d'enquête, en fait. Ça peut permettre de rejoindre des gens de tous horizons, de réfléchir ensemble à des situations, non pas comme quelque chose de théorique, mais comme quelque chose qui arrive dans la vie pour vrai. Il y a quelque chose là-dedans d'une réflexion théologique qui est au plus près de l'expérience. Ça tient compte non seulement des idées, mais aussi de l'affectivité, des enjeux relationnels que peuvent vivre les personnes, de la spiritualité, de la sensibilité, toutes sortes d'éléments éléments souvent vont être moins présents à travers un ouvrage qui serait plus universitaire ou plus didactique. Mm-hmm. Donc, j'avoue que je me suis laissée prendre parce qu'au départ, pour moi, c'était rien qu'une bougie d'allumage. Ouais. Hein? Je voyais ça comme une mise en bouche, comme un déclencheur. Puis, j'ai fini par réaliser que le récit était la ligne directrice, que c'était ce qui devait passer en premier, les explications ou mettre les enjeux en relief, ça venait après à partir des personnages.
Les personnages ont pris le contrôle.
Les personnages ont, ouais, exactement, ils ont pris forme, ils ont pris vie, puis à quelque part, j'ai dû suivre la logique qui m'était amenée par les personnages.
Oui, et votre ouvrage est intitulé « Entre tradition et décision ». Est-ce que prendre une décision, c'est nécessairement s'éloigner de la tradition, de s'éloigner de ce qui nous précède? Est-ce que tradition et décision s'opposent?
J'aime beaucoup votre question. Je la trouve intéressante. En fait, non, je ne vois pas d'opposition entre les deux. Ce qui, pour moi, s'oppose à la décision, c'est l'idée, dans le fond, imaginaire, qu'on peut tout simplement reproduire par automatisme ce qu'on a soi-même reçu. Beaucoup ont cet imaginaire-là de différentes générations, mais pour ce qui concerne les rituels ou l'héritage catholique en général, depuis le milieu du 20e siècle, il n'y a aucune génération qui a pu faire vivre à la suivante la même chose que ce qu'elle avait reçu. Parce que, d'un, la société a changé, mais l'Église a changé aussi beaucoup. La pastorale a changé. Les manières de faire la pastorale du baptême, de faire la catéchèse, est-ce que c'est à l'école, est-ce que c'est à la paroisse, tout ça, ça a évolué sans arrêt. Hein? Ça n'a pas été beaucoup dans la continuité, mais beaucoup dans la modification graduelle à travers le temps. Donc, l'idée que ça pourrait se faire automatiquement, que mes enfants vont passer là où je suis déjà passée, c'est pas la réalité. Donc, pour moi, la décision, c'est le fait de porter un regard sur moi, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait moins sens. Alors, la décision peut mener à embrasser certaines parties de mon héritage ou de la tradition de manière très consciente. Ça peut amener à en rejeter d'autres, à faire un tri, à faire des réinterprétations.
Le droit d'inventaire, disait Lionel Jospin, le politicien français. Donc, c'est un peu ça.
C'est exactement ça. S'il te plaît, ça, j'aime beaucoup, beaucoup cette expression-là. Ouais. Tout à fait. Alors, il me semble que de toute façon, sans cet aspect du droit d'inventaire, comme vous dites, la tradition finit par se dessécher, se fossiliser en quelque sorte, si elle n'est pas réinvestie par des gens qui lui trouvent sens dans le présent.
Oui.
Alors, on a soit quelque chose qui est altéré par le présent, mais qui est vivant, ou bien on a quelque chose qui demeure inchangé, mais qui est inerte, comme dans le formol ou sous verre.
Oui, oui, la vie dans le mouvement.
Exactement, s'il te plaît, ça. Oui. Puis c'est la nature de la tradition d'être mouvement.
Mm-hmm. Oui, aussi, c'est ça. C'est ça. On peut actualiser une tradition.
Voilà.
Et Sophie Tremblay, vous enseignez, vous travaillez sur le terrain depuis plus de 20 ans. À la lumière de ce que vous observez sur la route des divers diocèses qui constituent l'Église québécoise, qui sont ces croyants d'un nouveau genre que vous rencontrez, que vous évoquez aussi dans votre ouvrage?
Bien, pour pouvoir mieux caractériser le nouveau genre, il faut que je commence par vous dire qu'est-ce que c'est que l'ancien genre.
Oui, tout à fait.
Bien, j'en fais partie, hein, moi-même. Donc, baptiser un croyant d'un genre plus classique, c'est une personne qui a été baptisée bébé, qui a été catéchisée pendant son enfance, jusqu'à la confirmation de la première communion, peu importe que ça ait été à l'école ou en paroisse ou les deux. Mais pendant l'enfance, puis d'appartenance catholique, plus ou moins de proximité, mais pendant toute sa vie. Il y a des personnages dans mon récit qui ont ce profil-là, qui correspondent à ce profil-là, puis c'est mon cas, là. Je suis une croyante de l'ancien genre. Mais je rencontre régulièrement des croyants nouveau genre dans les diocèses, mais aussi dans les cours que je donne ici à Montréal, encore dans les jours précédents. Ça me frappe à quel point c'est des itinéraires qui sont différents, qui sont balisés autrement. c'est pas des gens qui ont appartenu à des cohortes où tout le monde recevait la même chose en même temps. C'est beaucoup plus particulier comme itinéraire.
Beaucoup de gens qui ont pris une décision, dans le fond, pour un peu rejoindre le titre de votre ouvrage.
En effet, généralement, c'est le cas. Oui. Donc, certains sont nés dans une famille religieuse ou non. Peuvent avoir été baptisés bébés, avoir rien eu après ou très peu de choses. Il y a aussi maintenant des gens qui sont baptisés à tous les âges de la vie. Donc, ça fait un héritage différent, des itinéraires très différents des croyants anciens genres. Des gens qui ont pu explorer différentes religions, spiritualités ou appartenir à d'autres églises. Ou des gens qui n'ont jamais fréquenté la moindre religion. Ça, les sondages nous montrent que c'est en augmentation, pas seulement ici, mais partout, les gens qui se considèrent sans religion. Oui. Ça veut pas dire sans foi, ni ça veut pas dire sans spiritualité, mais sans religion. Mm-hmm. Alors, il y a des gens comme ça qui vivent à un moment donné un éveil spirituel dans leur parcours, puis là, il y a une décision personnelle là, qui se prend d'entrer sur un chemin qui n'a pas toujours fait partie de leur vie, ou en tout cas à géométrie variable. Oui. Il y a plusieurs personnages de mon récit, au moins la moitié, là, qui ont des itinéraires de ce type-là.
Et est-ce qu'on a adapté la démarche d'initiation chrétienne à ces nouveaux croyants que vous décrivez? Comment se pose la question de la transmission dans ce contexte assez nouveau, finalement?
Bien, vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'en Église, on demeure fortement conditionné et même formaté par le moule traditionnel. Oui. Puis, c'est peut-être pas étonnant, dans le fond, qu'on ait tendance à reproduire ce que soi-même on a reçu. Je pense que c'est un peu naturel. Malheureusement, les personnes qui ont des itinéraires moins typiques vont être considérés comme l'exception qui confirme la règle, alors qu'en réalité, ils sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est de moins en moins exceptionnel. C'est de plus en plus sous cette forme-là que les gens finissent par entreprendre un chemin qui les amène en Église, de près ou de loin. Ce qui est intéressant, c'est l'intérêt sincère de ces personnes-là. Ça fait du bien aux croyants anciens modèles de voir, alors qu'on a l'impression dans la société que le christianisme est rien que bon pour les poubelles de l'histoire, de voir des gens qui y découvrent quelque chose de... C'est ça. Quelque chose de vivant qui leur fait ça. Ça fait du bien, ça, mais en même temps, ça dérange. Mm-hmm. Puis c'est pas tous les croyants de l'ancien genre, entre guillemets, ou du modèle plus traditionnel, qui sont ouverts ou prêts à se laisser déranger de cette façon-là. Parce que ces croyants-là, comme ils n'ont rien à perdre ni à défendre, ils ont l'audace de poser des questions. Ils ont l'audace de pointer vers les zones d'ombre, vers les angles morts, parfois de manière très franche et directe, puis parfois ça prend de court. Des gens qui, soit n'ont jamais voulu regarder ces éléments-là dans l'angle mort, n'ont jamais voulu y réfléchir ou n'ont jamais senti le besoin, ils vont se sentir un peu pris au dépourvu, finalement, ces personnes-là.
Oui. Et on sent un peu dans l'ouvrage, via certains personnages, parler de Dieu aujourd'hui, c'est pas facile. Certains vont avoir un certain malaise à évoquer leur spiritualité ou d'évoquer Dieu, tout simplement. Et aussi, un autre malaise, c'est quand on parle de Dieu, souvent, les gens à qui on va parler, ils vont peut-être avoir tendance à penser qu'on veut les convertir, qu'on est dans une démarche prosélyte. C'est un défi assez particulier à notre époque. Parler de Dieu aujourd'hui, c'est pas facile.
Non, c'est vraiment compliqué parce qu'on se fait facilement prêter des intentions qu'on n'a pas. C'est un sujet très sensible au Québec à cause du passé religieux, plus ou moins. En fait, je pense pas que la société québécoise a fait la paix avec son passé religieux. Puis, il y a des réactions parfois épidermiques au contact de gens qui appartiennent à d'autres religions aussi parce qu'on n'est pas bien avec le passé religieux. Si on est en paix avec ça, il me semble que ça devrait pas faire autant réagir. Alors, en Église, présentement, dans l'Église catholique, on parle beaucoup de prendre un tournant missionnaire, ce qui veut dire de sortir de nos lieux habituels pour aller vers les autres. Mais en même temps, ça fait peur à beaucoup de croyants qui disent « Bon, est-ce qu'on me demande d'aller proclamer sur la place publique, d'aller vendre ma foi, d'essayer de ramener des gens? » qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire humilier? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce qu'on va m'associer à des gens qui sont très conservateurs? Parce qu'il y en a aussi des croyants très conservateurs qui n'ont pas peur de prendre beaucoup de place sur la place publique. Puis il y a aussi des groupes religieux qui font du prosélytisme sans vergogne. Ça, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous le savez. Alors, si je parle de Dieu, est-ce qu'on va m'assimiler à ces personnes-là? Est-ce qu'on va penser que je suis de vouloir... Ouais. C'est ça, exactement. Alors, ça rend la situation pas mal délicate, pas mal difficile. C'est vraiment un immense défi.
Et dans votre ouvrage, Sophie Tremblay, vous interrogez aussi notre rapport au rituel. Ça m'a particulièrement intéressé. Entre autres, vous utilisez le baptême comme question. En fait, c'est la question de baptiser ou non un enfant qui constitue carrément le déclencheur de l'histoire qui structure votre ouvrage. C'est intéressant. C'est une question, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent, des personnes qui récemment se sont fait demander pour être marraine, parrain aussi, et qui eux-mêmes peut-être ont un rapport à la foi qui peut être ambigu, qui n'est pas tout à fait clair. Donc, en quoi notre rapport au baptême illustre particulièrement bien cette tension entre tradition et décision qui donne son titre à votre ouvrage?
Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la question du baptême. Hein? Pour moi, c'est vraiment une fascination. Dans la mesure où c'était quelque chose qui était tellement... qui allait tellement de soi dans la société d'autrefois, d'avant la Révolution tranquille, d'avant le Concile Vatican II, un bébé pas baptisé, c'était pratiquement impensable, ça n'existait pas. Puis il a fallu attendre quand même jusqu'en 1994 avec la réforme du Code civil pour qu'il y ait une inscription au registre de l'État civil des naissances, parce qu'avant, c'était le certificat de baptême qui en tenait lieu. C'était les registres paroissiaux qui tenaient lieu, on pourrait dire, de registre de l'État civil. Donc, être baptisé peu après la naissance, dans un régime comme ça, c'était la norme. C'était même quasi indiscutable. Puis, pour cette raison-là, dans les dernières décennies, même si il y a des choses qui évoluaient puis qui changeaient, il reste que dans beaucoup de familles, il y a de la pression qui était exercée sur les jeunes parents. Est-ce que tu vas faire baptiser ton bébé? Donc, le poids de la tradition est vraiment très lourd dans le cas du baptême. Ça vient aussi toucher les liens familiaux. Il y a des enjeux relationnels. Vous voyez, quand j'avais 30 ans, puisque j'avais pas d'enfant, je voyais pas ça. Maintenant que je suis maman, je le vois à quel point ça ne peut être que complexe. Même s'il y a plus de place pour le choix ou pour la décision, on peut pas faire autrement que sentir le poids de la tradition.
Et Sophie Tremblay, dans votre plus récent ouvrage, vous insistez sur notre rapport ambigu à la liberté de conscience. En quoi, selon vous, on a besoin d'apprivoiser un peu mieux la liberté de conscience?
Bon, la liberté de conscience, ça fait partie d'un ensemble. C'est plusieurs pièces de casse-tête qui sont constitutives d'une société de droit. Ça va avec la liberté de religion ou liberté de culte. Ça va aussi avec le pluralisme. Ça veut dire que dans une société comme la nôtre, on permet aux gens d'avoir les croyances qui sont les leurs de manière sincère, sans chercher à exercer de coercition par rapport à ça. Mais le pluralisme, ça continue d'être quelque chose d'inconfortable, je pense, socialement. Puis, je dirais que il demeure, dépendamment des milieux, des familles, une forme de pression à la conformité. La pression à la conformité, à mon sens, c'est une force qui est antagoniste à celle de la liberté de conscience. Donc, disons qu'on la veut pour soi, puis on a plus de difficultés à la consentir aux autres, parce qu'à quelque part, on peut se sentir fragilisé par le fait que l'autre ne croit pas comme soi. Puis je pense que en église ou en pastoral, on a un petit peu tendance à profiter de la pression quand elle est là, puis à jouer la carte contraire quand elle n'est pas là. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté qui me paraît problématique, alors que je trouve ça tellement important pour l'éducation, pour la construction des personnes puis de la société, d'apprendre à développer cette liberté-là, puis de se poser la question, à quoi je crois pas? puis de pas sentir que ça m'oblige à suivre quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre m'oblige à le suivre, oui. d'être capable d'assumer ça dans une espèce de maturité, là. Donc ça, c'est loin d'être acquis. Il y a pas mal de travail à faire dans les familles, dans les écoles, dans la société en général. Oui. Mon espoir, c'est que le cours d'éthique et culture religieuse qui est donné dans les écoles, qui est souvent décrié parce que très mal compris, mais la troisième compétence de ce programme-là, c'est la compétence du dialogue, la capacité d'entrer en dialogue et aussi de voir les pièges qui peuvent être posés au dialogue. Donc, si c'est bien enseigné par des enseignants compétents, moi, je pense que ça développe des habiletés, des savoir-faire et des savoir-être qui peuvent amener à plus de maturité dans la société autour de ça.
En terminant, Sophie Tremblay, comment est-ce que vous vivez vous-même votre foi aujourd'hui, votre condition de croyante dans un Québec à l'orée des années 2020? Comme le demande souvent Camille, personnage principal de votre ouvrage, quel est pour vous l'essentiel de la foi chrétienne?
Bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que ça vient en premier lieu. Pour moi, l'ancrage premier est dans une lecture de l'expérience humaine, une lecture de ma propre expérience, de mes limites particulièrement. En fait, si le sort de la planète dépendait rien que de la bonne volonté des personnes, il me semble que les choses n'iraient pas comme elles sont. Mm-hmm. Trop souvent, quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'on parlait du christianisme comme si ça se résumait à tout simplement être une bonne personne, être gentil. Mais justement, comme adulte, maintenant dans la cinquantaine, Je vois dans ma propre vie et dans celle de combien d'autres qu'on a de la difficulté à faire le bien qu'on voudrait faire, puis trop souvent on fait du mal qu'on voudrait pas faire aussi. Mm-hmm. Donc c'est pas rien qu'une question de volonté, de rationalité, de faire un effort, de serrer les fesses pour être vertueux. Il y aurait de quoi désespérer de l'humanité. Il y a des moments où, en regardant ce que nous faisons, puis comment nous nous opposons les uns aux autres, ça donne le vertige. Maintenant, ce qui me donne un repère autre par rapport à ça, qui reste là, qui reste plus seulement en horizontalité, c'est de croire que je ne suis pas abandonnée à moi-même, que l'humanité n'est pas abandonnée à elle-même. On n'est pas simplement le fruit du hasard dans un univers qui se fout de notre existence. Il y a une source dont nous vivons. On ne s'est pas donné la vie. On n'a pas choisi de vivre. Nous la recevons tous comme un cadeau. Des fois, ça peut paraître comme un mauvais cadeau, mais il reste que personne ne se donne à soi la vie. La vie continue d'être donnée. Donc, il y a une source quelque part. Alors, on n'est comme pas laissé, abandonné à nous-mêmes. Puis, donc, moi, dans ma tradition, cette source-là, je l'appelle Dieu. Puis, la manière de croire en Dieu qui est particulière aux chrétiens, c'est de croire que ce qui nous permet le plus de voir qui il est, comment il agit, c'est en regardant comment a vécu un homme il y a 2000 ans en Palestine, qui a été capable, même en subissant la violence la plus extrême, de demeurer dans la liberté puis dans l'amour d'une manière complètement inimaginable, d'une manière à comme désamorcer les tensions entre bourreau et victime, parce qu'il est demeuré libre malgré ce qu'il subissait, puis qu'il n'a pas maudit ses bourreaux. Donc vraiment, un amour extraordinaire, puis c'est dans sa manière même de recevoir une mort infâme, qui témoigne de quelque chose qui dépasse ce qu'un être humain peut faire habituellement. Alors, pour moi, c'est vraiment le modèle des modèles, mais c'est pas seulement un homme qui a vécu il y a 2000 ans, c'est une présence encore, agissante, puis ça m'amène à mon dernier point. Les disciples qui ont parlé de sa résurrection parlent aussi d'un esprit qui leur est donné, l'esprit de ce Christ mort et ressuscité, l'esprit qui vient aussi du Père, qui est source de la vie. Puis moi, ce que je vois dans ma vie à moi, c'est comment me laisser travailler de l'intérieur par cet esprit-là, justement là où je touche mes limites. Ça fait comme agrandir le cœur, ça fait grandir, ça fait progresser. C'est comme s'il y avait une espèce de transfusion d'amour qui m'amenait à aimer davantage. à m'ouvrir davantage. Et ça m'empêche d'être repliée sur moi, puis ça m'empêche de désespérer de l'humanité, parce que je peux reconnaître aussi cette force agissante-là chez toutes sortes de gens, croyants ou non. Mm-hmm. Croyants ou non. Puis de voir comment ça peut... Ça fait pas disparaître l'imperfection, ça fait pas disparaître les conflits, mais ça fait qu'à travers ça, il y a une espèce de chemin de communion qui est possible. Il y a une espèce de rédemption, pour prendre le mot traditionnel pour le dire. Mm-hmm. Donc, les imperfections qui sont ouvertes, qui reçoivent la lumière comme un vitrail laisse passer la lumière, à ce moment-là, les imperfections deviennent des chemins de communion, autant avec Dieu qu'avec les autres.
Mais Sophie Tremblay, un très grand merci pour votre passage en studio aujourd'hui. C'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup.
Tout le plaisir était pour moi.
Alors, je rappelle que Sophie Tremblay est théologienne et professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Elle nous parlait de son plus récent ouvrage intitulé « Entre tradition et décision, devenir chrétien aujourd'hui », un livre paru tout récemment aux éditions Médiapol et qui sera lancé le jeudi 14 novembre dès 19h à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Un vin d'honneur va suivre la conférence inédite que Sophie Tremblay a préparée pour l'occasion. Des copies du livre pourront être achetées sur place. Plus d'informations, visitez le www.ipastoral.ca. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. Restez avec nous, suivra la chronique 7e art avec Olivier Lefébure. Avec moi en studio, Olivier Lefébure, chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film. Dans le cadre de cette chronique sur le 7e art, nous discuterons de deux longs-métrages québécois, soit Joulix et Antigone, deux films actuellement sur nos écrans. Olivier Lefébure, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors Olivier, on va commencer avec le film Joulix, un film réalisé par Marie-Lou Wolfe à partir d'un scénario de Marie-Christine Liou, un film raconté à hauteur d'enfant et qui se déroule dans les années de la contre-culture des années 70.
Oui, ça se passe au début des années 70, je ne sais pas trop exactement quand, mais c'est ça, début des années 70, et c'est adapté d'une pièce de théâtre, donc de Christine Léhu. Mmh, oui. Et ça raconte l'histoire d'un couple. C'est d'abord une histoire d'amour, de passion. Et le film va parler beaucoup donc d'amour, mais aussi de liberté. Donc ça va beaucoup avec effectivement la contre-culture. Oui. C'est un couple de marginaux qui vivent vraiment en dehors de la société. Et lui notamment, sans que ce soit dit de façon claire, il est associé au peuple rom.
Donc, histoire d'amour, il y a une petite fille élevée en toute liberté, vraiment. Là,
En totale liberté, et tout le film passe par ses yeux. Mmh. Tout le film, donc, vous avez dit au début qu'il était filmé à hauteur d'enfant, c'est vraiment ça. Et tout le film aussi, il y a la voix off de la petite fille qui raconte ce qui va se passer, ou ses sentiments. Et ce qui est très bien dans le film, et c'est une belle surprise, c'est que les mots qui sont utilisés par la jeune fille et les expressions, c'est vraiment des expressions d'enfant avec tout un langage imagé. Donc, on a vraiment l'impression par moment d'être dans la tête de l'enfant.
Et donc, un film sur l'éducation, le choc des cultures, l'anticonformisme.
L'éducation ou la non-éducation, oui. Puisque ça se passe, la petite fille est beaucoup laissée à elle-même et elle est élevée en dehors des normes habituelles. Elle va pas à l'école. Elle est complètement coupée de tout ce qui est religion. On la laisse vivre sa vie comme elle veut, ce qui fait que lorsque les grands-parents de la petite fille, donc qui sont les parents de la femme, arrivent pour quelques jours, il y a un choc parce que eux, ce sont des Québécois, je dirais, classe moyenne, assez classique, et ils sont totalement surpris de voir cette petite fille qui va pas à l'école, qui traîne à longueur de journée, qui fait ce qu'elle veut, le père qui part, qui revient. Donc il y a vraiment un choc de culture entre un monde classique, un peu traditionnel, et des gens qui ont décidé de vivre en toute liberté.
Choc générationnel.
Choc générationnel, puis c'est un film qui parle justement de liberté et de la difficulté aussi des fois d'être libre, parce que c'est bien beau de se dire on va vivre sans contraintes, sans aucune convention, mais il faut que les deux soient toujours dans un couple, soient toujours sur la même longueur d'onde. Or, le Zach, le père, quand il décide de partir, il peut partir pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 2 semaines, en laissant sa femme et son enfant dans leur maison, qui en plus est complètement pourrie. Leur maison.
La liberté du personnage de Zach se fait au détriment de la liberté de
par moment, se fait au détriment de l'autre. Donc, il y a une certaine critique à ce niveau-là.
Et Olivier Lefebvre, un mot sur la controverse qui est survenue autour de Julix là, à propos de la représentation des Roms à l'écran, une controverse qui s'inscrit dans un débat beaucoup plus large sur la question de l'appropriation culturelle.
Oui, c'est sûr que le film présente un certain nombre de clichés sur les Roms, parce que ben oui, ils travaillent, ils ramassent de la ferraille, ils sont en voyage, ils dansent, ils chantent. Oui, il y a un certain nombre de clichés, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec la controverse, c'est que l'histoire se passe dans les années 1970. Et c'est sûr que aujourd'hui, les Roms, c'est plus ça. La plupart sont sédentarisés, mais il n'empêche que dans les années 70, notamment en Europe, pour ça que c'est un petit malaise parce que ça se passe au Québec, puis je ne sais pas si le monde rom est très présent au Québec, mais en Europe, le monde gitan, c'est une réalité, et dans les années 70, ça bougeait encore beaucoup en voiture, en caravane, et ils s'installent. Donc oui, il y a un certain nombre de clichés, mais tout ça s'est ramené, faut pas oublier que c'est dans les années 70. Et quand on reproche au film de parler des gitans, d'utiliser le terme gitan, dans les années 70, on parlait des gitans, on parlait des tziganes, et on les décrivait comme étant des voleurs de poules et des voleurs d'enfants. Ce qui était faux, mais c'était la réalité des années 70.
Oui, oui. Alors, Olivier Lefebvre, quelle cote a été donnée au film Julix par l'équipe de Mediafilm? Je rappelle que dans le système de cotes de Mediafilm, la cote 1 renvoie à un chef-d'œuvre, la cote 7, elle, est donnée à un film jugé minable.
Il a été coté 4, bon, puis c'est vraiment un film, c'est une belle surprise, donc faut aller le voir.
Parfait, je rappelle que le film Julix est présentement à l'affiche. On parle maintenant du film Antigone, un drame de la réalisatrice Sophie Deraspe, qui nous offre ici une relecture moderne de la tragédie de Sophocle, un texte qui a près de 2500 ans, un film qui pose notamment cette question, est-ce que la famille est plus importante que tout?
Oui, c'est alors relecture moderne effectivement, puisque l'action se passe à notre époque, à Montréal, à notre époque, et en plus, donc il y a effectivement le texte de Sophocle qui sert, je dirais, de matériau de base, mais en plus la réalisatrice a inclus dans l'histoire l'affaire Villanueva et les toute la vague d'immigration qu'il y a pu y avoir au Québec depuis 10-15 ans. Donc c'est vraiment une relecture moderne et ça raconte effectivement l'histoire d'une famille. Il y a une grand-mère et 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, qui arrivent de Kabylie, où ils ont vécu, ça renvoie à la guerre civile qu'il y a eu en Algérie dans les années 90-2000. Oui. Et le drame, c'est qu'il y a un des frères qui va être tué par la police. Comme dans l'affaire Villanueva, une arrestation qui vire mal. Et à partir de là, la personnage d'Antigone, donc une des sœurs, va placer la famille au-dessus de la loi, puisque elle a un frère qui est tué, l'autre est arrêté et il est menacé d'être déporté parce qu'il a déjà commis des petits délits et il est majeur. Et là, Antigone va tout simplement décider de le faire évader. Et va réussir à le faire évader. Je ne dirais pas comment, on va garder un petit peu le suspense. Mais et là, en fait, Antigone pose la question de est-ce que la famille, c'est la première valeur qu'on doit avoir. Est-ce que c'est plus important que la justice? Est-ce que c'est plus important que la loi?
Donc, une figure forte, figure féminine forte, militante, engagée. D'ailleurs, Sophie Deraspe a été très marquée par le printemps 2012, entre
oui.
autres.
Oui, le personnage d'Antigone, c'est vraiment un personnage très engagé, très fort. C'est un des plus beaux personnages féminins dans le cinéma québécois depuis des années. En plus, c'est une jeune femme qui est brillante, qui est intelligente, qui réussit, mais elle a une volonté d'apprendre absolu. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu aussi le clash avec sa sœur, parce que sa sœur, c'est une jeune femme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle, ce qu'elle veut, c'est un petit bonheur tranquille. Elle fait de la, elle fait des études en coiffure. Elle, son rêve, c'est d'avoir un petit salon de coiffure, d'avoir un mari, un ou deux enfants, d'avoir une petite vie tranquille. Alors que Antigone, elle, elle aspire à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, il y a une confrontation entre elle et sa sœur à ce niveau-là. Puis elle, elle rêve de justice, elle rêve de liberté.
Donc, la quête d'absolu.
C'est une quête
d'absolu. Versus le désir d'une certaine tranquillité.
Oui, oui. Et puis, elle se retrouve confrontée à ce qu'elle trouve injuste, c'est que son frère soit arrêté et menacé de déportation. Elle trouve ça injuste pour un petit délit qui semble, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, il a eu des petits problèmes avec la justice. Et surtout, c'est le fait qu'elle a son autre frère qui a été tué. Et donc là, elle imagine, elle trouve qu'il y a une injustice totale envers sa famille.
Oui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, l'enthousiasme autour de ce film-là, partout où il est passé, il est acclamé? Est-ce que, moi, j'ai l'impression que c'est comme si cette quête d'absolu qui est portée à l'écran, on en a besoin aujourd'hui. C'est comme si ça répond à, vient répondre à un besoin.
Le personnage est très fort. Le personnage d'Antigone, joué par Naïma Ricci, est très, très fort. C'est effectivement un personnage qui inspire parce que elle se bat seule contre tous. Mm-hmm. Contre l'État, contre la police. Et c'est pas un combat, je dirais, absurde. Au sens, elle, ce qu'elle veut, c'est faire triompher la justice. Donc, c'est sûr que ça motive. En plus, le film a été sélectionné pour représenter le Canada aux Oscars. Mm-hmm. Donc là, ça lui donne tout de suite une aura supplémentaire. Oui. Et techniquement, le film est très, très fort. Il y a des scènes absolument chocs. Moi, j'ai envie de dire que ce film-là, c'est du calibre de Incendie de Denis Villeneuve, qui est sorti il y a maintenant à peu près 10 ans. On est dans le même niveau de qualité cinématographique. C'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma au Québec.
Eh bien, rien de moins.
Rien de moins.
Et quelle cote on donne à un tel film?
On lui a donné 3 pour l'instant, c'est-à-dire très bon. Et c'est vraiment un film là, qui est sur nos écrans depuis quelques jours. Il faut vraiment aller le voir. C'est un coup de poing. C'est vraiment très, très fort.
Olivier Lefebure, un grand merci pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier.
Merci, Mathieu.
Alors, je rappelle qu'Olivier Lefebure est rédacteur et chargé de projet à l'agence de presse Cinéma Média Film. Il nous parlait des films Julix et Antigone, deux films québécois présentement à l'affiche. Consultez le www.mediafilm.ca pour avoir accès aux bandes-annonces et aux horaires de ces deux films. C'est toujours Mathieu Lévigne à la barre de Foi et Turbulence. Restez avec nous. Suivra la chronique Actualité religieuse de Philippe Vaillancourt. Poursuivons avec la chronique Actualité religieuse de Philippe Vaillancourt, rédacteur en chef de l'agence de presse Présence. On rejoint Philippe à Québec. Philippe Vaillancourt, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Alors, Philippe, vous y êtes allé d'une fascinante enquête journalistique à saveur historique récemment, le tout résultant à un article publié sur le site de Présence Info. Article coiffé de cette question étonnante. Le Ku Klux Klan a-t-il incendié la cathédrale Notre-Dame de Québec? Question assez efficace. Alors, Philippe, peut-être nous parler de cette enquête et peut-être surtout de ses résultats.
On est tombé sur une vieille photo de presse, une photo qui était distribuée à l'époque par une agence photographique pour les médias, pour les journaux d'époque, dans les années 20. Et on s'est intéressé à ça parce que, d'abord, le centenaire de l'incendie de la cathédrale à Québec, c'est bientôt, c'est en 2022, mm-hmm. car elle a brûlé en décembre 1922. Et à l'endos de cette photo, l'information qu'on disait de publier aux journaux pour accompagner la photo était que le Ku Klux Klan était le principal suspect pour expliquer l'incendie de la basilique cathédrale en 1922. Et c'est une hypothèse. J'ai été guide à la cathédrale à Québec il y a quelques années et honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de cette hypothèse. J'en ai parlé rapidement avec le curé actuel, Mgr Denis Bélanger. Puis il m'a dit que lui non plus, ça ne lui disait rien. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. On s'est dit, mais c'est quoi? Ça vient d'où? Et en faisant un début de recherche, on a réalisé qu'un paquet de sites web faisait référence à cette hypothèse-là aujourd'hui. Notamment, bon, ça a beau être participatif là, comme site web, mais notamment Wikipédia, notamment TripAdvisor, en disant bon, la basilique cathédrale a été incendiée par le Ku Klux Klan, mais aussi d'autres journaux plus, comment dire, pas plus sérieux, mais qui sont tenus à une plus grande rigueur journalistique. Ouais. Et donc, on s'est mis à fouiller. Et ce qu'on a réalisé en épluchant la presse de l'époque, c'est que au moment de l'incendie, il y avait au Québec une certaine peur, une certaine phobie d'être pris pour cible par une organisation comme le Ku Klux Klan ou des orangistes, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment le KKK qui revenait. D'une part, la presse de l'époque s'intéressait beaucoup au développement et aux activités du KKK aux États-Unis. Et ici, c'est qu'on s'est retrouvé en 1922 avec une série d'incendies suspects et on n'était pas certain de la cause exacte, mais là, vous savez comment est l'esprit humain, on cherche à faire des liens entre les éléments. Mm-hmm. Et c'est ce que les gens et les journaux ont pu faire à l'époque. Alors, plusieurs incendies, et la manière qu'on avait de présenter ça, c'est-à-dire nos institutions catholiques, canadiennes, françaises, sont-elles prises pour cible par une organisation comme le KKK?
Ça venait renforcer un certain discours national, dans le fond.
Exactement. Ouais. Et ça, c'était avant même l'incendie de décembre 1922 à la cathédrale de Québec. Donc, il y avait eu des incendies à l'Université de Montréal, l'église du Sacré-Cœur à Montréal qui avait brûlé. On n'était pas certain exactement c'était quoi. La basilique à Saint-Anne-de-Beaupré qui a complètement été rasée par le feu aussi en 1922. Le collège de Saint-Boniface, l'école d'Antan. Bref, il y en avait eu beaucoup, beaucoup. Et l'hypothèse avait même été véhiculée dans certains hauts lieux, notamment à la mairie de Montréal. On fait référence au maire Médéric Martin qui aurait été plutôt de cet avis qu'il fallait explorer cette piste. Et bon, donc finalement, quand l'incendie survient à la cathédrale à Québec, le 22 décembre 1922, le Soleil titrait d'ailleurs « Est-ce une main criminelle qui s'acharne sur nos institutions? » Et on revenait sur différentes hypothèses. Et là, on s'est mis à chercher, puis à chercher. Et assez rapidement, le curé, les autorités de l'Église à l'époque disaient « Non, ça peut pas être accidentel. On venait de refaire l'électricité. Ça peut pas être le gardien de nuit. Il est trop bien payé pour prendre part à une entreprise comme ça. » Et donc, on écartait les autres thèses, si bien que l'enquête n'a pas donné grand-chose. Et pendant à peu près 5 ans, l'hypothèse, la question est demeurée, est-ce que le KKK aurait pu incendier la cathédrale de Québec? Et je dis pendant 5 ans, c'est qu'en 1927, là, il y a eu un développement intéressant. C'est un certain Américain du nom de Raymond K. Marsden, un homme qu'on mentionne pour la première fois dans la presse québécoise en juin 1927. Et c'est vraiment un entrefilet d'une grande banalité. Un voleur en train de arrêter pendant qu'il voulait voler une église en Ohio. Bon. Alors, il est interné, se met à collaborer avec les policiers et tout à coup, son histoire prend de l'ampleur. Tout à coup, il se met à dire « Oui, j'ai fait 7000 larcins dans des églises aux États-Unis et au Canada. » ce qui est considérable.
7000, c'est un monsieur occupé, là, quand même.
Très, très, très occupé. Il aurait fait ça pendant des années et des années. Et alors, il s'est mis à dire qu'il aurait caché le butin amassé, ainsi amassé, qu'il l'aurait caché dans des coffres qui seraient enterrés à la colle près de la frontière. Vous voyez, donc là, tout à coup, il y a un trésor dans l'histoire, donc nécessairement, la presse s'y intéresse. Et surtout, il commence à dire, c'est moi qui ai incendié 17 églises dans le Canada, et notamment, il s'est donné la responsabilité des incendies pour les deux basiliques de la région de Québec à l'époque, là, c'était Saint-Anne-de-Beaupré et évidemment la cathédrale de Québec. Et c'est cette hypothèse finalement qui a beaucoup été retenue par l'histoire et qui reste aujourd'hui encore la thèse principale expliquant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Québec, c'est de dire que Ray Marsden en est le responsable. C'est un criminel américain qui serait venu incendier nos églises ici. Le hic, c'est que ces déclarations-là par Marsden ont été récupérées par un sergent détective de la Cour de commissaire des incendies pour Montréal, qui est allé les chercher en Ohio. Et on a cherché, de notre côté, à retrouver ces déclarations sous serment, ce qu'on appelle parfois des affidavits, c'est un anglicisme. Mais donc, on a cherché à retrouver ces déclarations qui, théoriquement, devraient se retrouver dans les archives du procureur général de l'époque, qui était Tachereau. Et on a mis quelques personnes sur le coup, et même les archives nationales nous ont dit, écoutez, c'est curieux, on ne retrouve pas de traces de ça. Alors, on ne sait pas exactement, on n'a pas pu vérifier exactement ce que contenaient ces déclarations sous serment. Mais 1927 passe, 1928, tout à coup, il n'y en a plus de traces dans les journaux de cette histoire. Et les années passent, on se retrouve jusqu'à aujourd'hui avec, voilà, c'est Marsden qui a dit qu'il avait brûlé l'église avec toujours un point d'interrogation qui reste. Donc, tout ça pour dire que 100 ans plus tard, près de 100 ans plus tard, on a toujours un doute sur ce qui est réellement arrivé. Très peu probable que ce soit le KKK quand même. L'histoire de Marsden, à bien des égards, semble difficile à croire.
Oui.
Force est d'admettre qu'un siècle plus tard, là, on ne saura probablement jamais exactement ce qui est arrivé.
Philippe Vaillancourt, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire?
D'abord que les théories de complot, qui sont quand même nombreuses aujourd'hui, existaient il y a déjà bien longtemps. Hier comme aujourd'hui, on pourrait dire que ça révèle probablement très souvent davantage les craintes et les turpitudes d'une société. Ça en dit plus long là-dessus que sur les dangers réels qui la guettent. Il y a eu une lecture très nationaliste de ces incendies qui a été faite à l'époque, qui était aussi le reflet des inquiétudes de l'époque. À partir de là, je vous dirais, vous voyez un peu les parallèles à faire avec aujourd'hui, lorsqu'il est question d'identifier des menaces potentielles, d'avoir un repli identitaire. Ce sont des mécaniques toujours à l'œuvre dans nos sociétés.
Tout à fait. Philippe Vaillancourt, on va terminer avec quelques nouvelles en rafale. Entre autres, Présence Info a fait une très belle couverture de l'inauguration de la place Emmett Jones à Montréal. Emmett Jones, prêtre catholique, mieux connu sous le nom de Pops.
Oui, il y a une place qui porte désormais son nom, qui a été inaugurée officiellement le 30 octobre. On rappelle qu'Emmett Jones, très connu, là, le bon Dieu dans la rue, décédé le 13 janvier 2018, et il a marqué énormément de jeunes.
Oui.
Donc, et ça a été, ça s'était très bien reflété au moment du dévoilement officiel de cette place. Donc, avec des jeunes qui l'ont connu dans la rue, qui étaient présents. Bref, un beau moment, finalement, pour pour honorer un grand de l'histoire montréalaise.
Tout à fait. Autre nouvelle, le décès de Dorylas Moreau, évêque émérite de Rouyn-Noranda.
Très aimé, cet évêque qui était malade, qui avait la maladie de Lou Gehrig, qui a dû démissionner avant d'atteindre l'âge le canonique de la retraite de 75 ans. Alors, il avait démissionné en juin. Donc, les funérailles ont eu lieu le 28 octobre à la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda. Et c'est quelqu'un qui, comme il était originaire là, de la région de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de cette diocèse, eh bien, son décès a touché beaucoup, beaucoup de gens. Il avait parlé très sereinement de la maladie et de la mort avant de décéder. Ça a beaucoup marqué. Beaucoup marqué ces diocèses.
Oui. Et en terminant, une nouvelle plus réjouissante, le Vatican a annoncé le 5 novembre dernier que l'évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil, Claude Hamelin, était nommé à la tête du diocèse.
Un prêtre de Longueuil qui était devenu évêque auxiliaire et là qui va devenir l'ordinaire du lieu pour Saint-Jean-Longueuil en remplacement de Lionel Gendron, qui ces dernières années, Lionel Gendron a été président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et Mgr Hamelin, un peu le même genre de profil, je mentionnais Dorylas Moreau, quelqu'un de proche des gens, proche de son milieu.
Philippe Vaillancourt, un grand merci pour ce retour sur l'actualité religieuse des dernières semaines. Merci beaucoup, Philippe.
Ça m'a fait plaisir, Mathieu. Au revoir.
Alors, je rappelle qu'on peut lire le journaliste Philippe Vaillancourt sur le site de l'agence de presse Présence au www.presence-info.ca. Restez avec nous. Suivra la chronique musicale de Jonathan Guilbeault. C'est toujours Mathieu Lavigne au micro de Foi et Turbulence. On vient d'entendre un extrait de la pièce Every Hour, une chanson toute gospel qui ouvre le nouvel album du rappeur américain Kanye West. La sortie de cet album, intitulé Jesus is King, a été reportée à 3 reprises au cours du dernier mois pour finalement arriver dans nos oreilles le 25 octobre dernier. On en parle avec Jonathan Guilbeault, homme de livres et de musique, qui nous présente chaque mois à notre micro artiste, chanson, album, qui déclenche chez lui une réflexion sur la vie, sur la société, notre rapport à Dieu et au monde. Jonathan Guilbeault, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci de nous accueillir chez vous dans les locaux, dans les bureaux de Bayard.
Plaisir.
Alors tout d'abord, Jonathan, un mot sur Kanye West, figure majeure, mythique du rap américain, un artiste incontournable, accessoirement le mari de Kim Kardashian, vedette de la télé-réalité. Kanye West, c'est aussi un homme qui a connu son lot de difficultés ces dernières années.
Ben, vous avez bien dit, c'est sans aucun doute l'un des artistes les plus importants de sa génération, toute discipline artistique confondue. Sa production musicale est indéniablement avant-gardiste et d'une influence considérable sur le rap des 15 dernières années. Depuis au moins College Dropout en 2004 là, jusqu'à My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2011, il est au sommet de son art et depuis, même si ses albums font de moins en moins l'unanimité, il est tout de même considéré comme, vous l'avez bien dit, un incontournable du monde du rap. Et un incontournable de l'actualité people, si on peut dire, ou politique dans un sens très large. Et c'est vraiment dans cette zone non musicale de sa vie que les difficultés sont apparues. Bon, il a humilié Taylor Swift en direct aux MTV Awards, on s'en souvient. Il a osé avancer que l'esclavage était un choix. Il s'est pris pour Dieu. Il a chanté les louanges de la pornographie. C'est aussi un supporter invétéré et controversé du président Trump. Ce qui lui a fait perdre une bonne partie de son fan club. Bref, il va de scandale en scandale depuis un certain temps. Et là, il réapparaît avec un album gospel au nom assez explicite, merci, Jesus is King. Ce qui, pour plusieurs, constitue en soi un autre scandale.
Oui, tout à fait. Et Jonathan Guibeau, avec Jesus is King, est-ce qu'on peut parler d'un grand virage chrétien pour Kanye West? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une conversion soudaine, radicale?
J'avais tendance à dire... C'est peut-être une conversion radicale, c'est dur à dire de l'extérieur, en seul Dieu sont les cœurs et les reins, mais en tout cas, c'est pas une surprise. Déjà avec la chanson « Jesus Walks » en 2004, son premier gros succès, Kanye évoque la figure de Jésus, et avec une certaine justesse, je dirais, ce n'est pas une apparition superficielle. Ça se garde par la suite, Kanye devient de plus en plus mégalomane, il se prend pour Dieu, on l'a dit, il se prend pour Jésus, ce qui s'entend bien dans le titre de son album « Jesus » en 2013. Mais en 2016, avec The Life of Pablo, on sent que déjà Kanye hanté par une certaine inquiétude qu'on peut qualifier de proprement spirituelle. C'est frappant dans la première chanson, Ultralight Beam, dans laquelle il cède le trône à Dieu, si on peut dire. Il remet Dieu à la première place et cesse de glorifier son saint nombril. plus encore, quand on sait que depuis janvier dernier, Kanye traverse les États-Unis et anime chaque dimanche un Sunday service, oui, un mini show gospel qui fait office de rassemblement dominical là, pour des invités triés sur le volet, il faut bien le dire, avec un code vestimentaire et tout.
Présence bon, caméra, c'est
voilà. bref, si on prend en considération la trajectoire personnelle de Kanye depuis un an, Jesus is King apparaît comme une suite logique. Il fait ce type de musique depuis un an, il parle de Jésus depuis un an, alors pas de surprise. Est-ce que ça va durer plus longtemps que la période Born Again de Bob Dylan, par exemple, qui a duré quoi, deux, trois ans, là, en 79, 80, 81. C'est difficile à dire pour l'instant.
Oui. Et donc, Jesus is King, c'est le 9e album de Kanye West, un album que le rappeur annonçait comme une voie vers la rédemption, une façon de, oui, rendre gloire à Dieu. Certaines critiques ont plutôt l'impression que Kanye West rend plutôt gloire à lui-même, encore une fois. Pourtant, l'humilité n'est-elle pas centrale au message chrétien?
Ouais, c'est très compliqué, très délicat de porter un jugement sur l'authenticité de la foi chrétienne de Kanye, sur l'authenticité de sa conversion. D'une part, il est très facile de se méfier de ce que dit Kanye, c'est clair. Hein? C'est un mégalomane, je le redis, on a vraiment l'impression que si quelqu'un est capable de tirer orgueil de son humilité, c'est bien lui. Hein? S'il y a quelqu'un aussi capable d'instrumentaliser la religion pour nourrir ses propres intérêts, sans même avoir conscience de le faire, c'est bien lui aussi. OK, mais d'autre part, il faut bien voir que se convertir pour une personnalité publique comme lui, c'est pas si évident. Qu'est-ce que devrait faire un Kanye converti pour prouver que sa conversion est authentique? Garder le silence? Se faire moine? Non, Kanye reste Kanye. S'il veut vraiment servir Dieu, il est naturel qu'il pense le faire en se servant de ses talents, de sa notoriété. C'est sûr qu'il paraît pas très humble en faisant ici. On dirait que c'est une arnaque marketing et c'en est peut-être une, on le sait pas. Hein. Mais pas forcément. Ça paraît superficiel aussi parce que du jour au lendemain, on s'improvise pas maître spirituel. Hein, et pourtant, en raison de sa notoriété et parce qu'il fait des shows le dimanche comme un pasteur, comme un prêtre, si on transpose du point de vue catholique, et parce qu'il sort un album qui parle de Jésus, il occupe par défaut la place d'un maître spirituel avec une grande audience, alors qu'il n'en est pas un. Hein, les convertis doivent écouter, apprendre, gagner en maturité, laisser le temps au temps. Et Kanye doit donc faire ça dans sa vie personnelle, mais là, il le fait en plein spotlight. Donc, c'est paradoxal et piégé comme posture, mais il est pas responsable de ça non plus. Hein. Bref, Il y a humilité et humilité. Si on mesure l'humilité en valeur absolue, Kanye ne se qualifie clairement pas dans le percentile le plus humble de l'humanité. Hein? Conversion ou pas, là. On est d'accord là-dessus. Mais si on l'entend de manière relative, du genre, est-ce que Kanye West est devenu plus humble? Alors, la réponse est plus complexe. On le sait pas. On peut se méfier, n'y voir qu'une façon subtile d'être encore plus égocentrique. Alors, lui donner le bénéfice du doute, prendre acte du fait que conjuguer védétariat et modestie, c'est extrêmement difficile, surtout pour une personne au caractère si naturellement égocentrique.
Oui. Est-ce qu'on est devant... Bon, vous avez un peu répondu à cette question, mais comment... Est-ce qu'on est devant un nouveau Kanye West, un Kanye West qui irait jusqu'à demander pardon pour ces frasques passées? Vous en avez évoqué quelques-unes en début d'entrevue. Frasques, d'ailleurs, nombreuses aussi. Donc, est-ce que le pardon fait partie des objectifs du nouveau Kanye?
Un peu, il se repent d'avoir vécu pour la gloire, le sexe, l'argent, mais son seul vis-à-vis dans ce repentir, c'est Dieu. En gros, on pourrait dire qu'il demande pardon à Dieu, mais pas à ceux et celles qu'il a offensés, ou si peu. Hein. C'est là le gros bémol qu'on peut mettre au sujet de sa conversion chrétienne. En bonne théologie chrétienne, on croit que on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, enseigne Jésus. Hein. Dans Jesus Walks, déjà, Kanye chantait que Jésus marche pour les tueurs, les réprouvés. Et c'est très bien. Mais on en revient toujours à « Jesus walks with me ». Hein, il marche avec les réprouvés, alors il marche avec moi. Mais il n'y a pas de sequela Christi, il n'y a pas de volonté de marcher dans les pas de Jésus, de faire comme lui avec les pauvres, de marcher avec les réprouvés. Bref, à entendre la louange de Kanye, on a parfois l'impression qu'il veut bien mettre Dieu sur le trône. C'est fragile, mais quand même, il veut bien. Jesus is King, mais pour autant que ce Dieu ne prenne pas visage de chair, et pour autant que Kanye reste deuxième, pas très loin du trône.
Vraiment
hein?
Pas très loin.
Donc,
ouais.
Jesus, OK, c'est toi en premier, mais je suis deuxième. Si lui s'incline devant Jésus, alors tous doivent s'incliner aussi. Ouais. Hein? Donc, il a demandé à ses collaborateurs de son album de s'abstenir de sexe hors mariage. Faut quand même avoir du cran pour quelqu'un qui a louangé la pornographie, comme ça. Là,
Oui, tout à fait. Et il demandait aussi d'être sobre en marge des enregistrements. Dans cette idée que pour lui, la musique devenait vraiment un don à Dieu et donc ça devait se faire dans un cadre presque pieux.
Pieux, peu, et peu, tout le monde devait penser comme lui et faire comme lui. Là.
Oui, tout à fait. Et est-ce que, bon, on vient d'évoquer l'enregistrement de cet album, il y a beaucoup de personnes impliquées, ça montre que même Kanye ne peut avancer seul, il sait s'entourer, le cher Kanye.
Oui, bon là, il veut s'entourer de Jésus, donc on espère que c'est pas juste une récupération, mais bon, Jesus is King n'est pas différent de ses albums précédents en termes de collaboration, chaque pièce passe par les mains de plusieurs autres artistes. C'est encore plus le cas, c'est vrai, dans un album qui est gospel, qui reprend donc souvent des textes liturgiques ou traditionnels de la culture gospel. Puis d'ailleurs, dans ses Sunday services, là, son passage dans différentes villes américaines chaque dimanche, ce sont souvent des chansons rap ou pop qu'il transforme en gospel, mais des chansons des autres, alors pas des pièces nécessairement originales.
Et petite mention au passage, on retrouve ce qu'on appelle du sampling dans l'univers du rap. On retrouve des éléments d'une pièce du compositeur québécois Claude Léveillé.
Ben oui.
Donc Claude Léveillé qui se retrouve sur un album de Kanye West. Bon, l'histoire dit que c'est un producteur montréalais qui a pu intégrer ces éléments. Jonathan Guilbeault, un grand merci pour nous avoir accueillis de nouveau chez Novalis dans les bureaux de Bayard. Merci beaucoup, Jonathan.
Un grand plaisir, Mathieu.
Merci. Alors je rappelle que Jonathan Guilbeault est éditeur chez Novalis, blogueur sur le blog des Carnets du Parvis et collaborateur aux pages débat de La Presse. Il commentait pour nous le 9e album du rappeur américain Kanye West. Ce disque, intitulé Jesus is King, est disponible depuis le 25 octobre. On se laisse avec un extrait de la pièce God Is.
C'était votre épisode de Foi et Turbulence pour cette semaine. Un grand merci à mes invités, Sophie Tremblay, Olivier Lefebvre, Philippe Vaillancourt et Jonathan Guilbeault. Merci aussi à Valérian Fournier et Daniel Fortin pour leur savoir-faire à la régie. Je rappelle que cette émission est coordonnée et produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. Praise the Lord. Worship Christ with the best of your portions. I know I won't forget.
strength in this race that I